Balado 96.9. Inspiration Inc. Présenté par la Banque Nationale.
Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule d'Inspiration Inc. Je suis toujours en compagnie de Philippe Richard Bertrand.
Salut.
Tu vas bien?
Très bien, toi?
Oui, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est?
En fait, l'Internet des objets, c'est plein d'objets. OK? Ça peut être un thermostat, ça peut être ta Fitbit, ça peut être ta cafetière, mais ça peut être aussi de l'équipement industriel lourd, un tracteur, une sonde. C'est ces objets-là qui sont connectés aujourd'hui à Internet. Ces objets-là envoient de l'information aux fabricants pour y dire, écoute, le tracteur tel, en ce moment, il manque d'huile, il commence à chauffer. Le café, ben, il est pas assez chaud. Alors, toute cette information-là, à un moment donné, qu'on emmagasine, ils doivent nécessairement la traiter.
Oui.
Et il y a une compagnie qui existe à Montréal qui s'appelle Nubo. C'est vraiment ce qu'elle fait. Elle a développé une plateforme technologique qui prend une multitude de data, d'informations qui vient de partout et elle traite cette donnée-là pour le fabricant de l'objet. J'ai rencontré cette compagnie-là parce que dans le début de notre podcast, j'ai écrit à plein de fonds de capital de risque au Québec leur disant « Hey, on lance un podcast ». Puis j'ai été surpris que deux fonds distincts, White Star Capital puis Innova, m'ont tous les deux parlé de cette
entreprise-là.
Puis là, j'ai dit, écoute, il faut les rencontrer. Puis aujourd'hui, on reçoit le CEO.
Alors, on vous présente Frédéric Bastien, cofondateur de Nubo.
Inspiration Inc. Portrait d'entreprise.
Frédéric Bastien, cofondateur de Nubo, bienvenue à Inspiration Inc.
Merci.
On aimerait d'emblée que tu nous expliques qu'est-ce que c'est exactement ton entreprise Nubo.
Oui, Nubo, c'est une compagnie de logiciels à Montréal qui fait de l'analyse de données, donc de l'intelligence artificielle puis de l'apprentissage machine. Donc, c'est des gros mots pour dire qu'on reçoit des données d'objets connectés. Donc, ça peut être des thermostats, des cafetières, des pompes, des turbines, toutes sortes d'équipements industriels ou non, qui génère des données.
Donc, c'est de l'espionnage accepté, disons.
Bien, en fait, presque tous les produits qui ont de l'électricité maintenant peuvent être connectés à l'Internet, génèrent des données, puis on utilise ces données-là pour prédire des pannes, améliorer le produit, comprendre les features qui marchent, qui ne marchent pas, etc.
Moi, là, je suis curieuse de savoir comment on en arrive, tu sais, à l'idée, ça, je le comprends, mais comment on en arrive à créer le produit?
Le produit, c'est la partie facile.
Ah bon?
Oui, c'est de t'arrimer au marché au bon moment, au bon niveau de maturité.
Parce avec que la compagnie a 5 ans, là.
La compagnie a 5 ans, oui. Fait qu'il y a 5 ans, si on parlait de faire de l'analytics, parce que c'est ça qu'on fait, de l'analytics pour l'Internet des objets, the Internet of Things, ça n'existait pas, là. Mais il y avait un marché qui était vieux d'une dizaine d'années qui s'appelait le machine-to-machine. Ça fait que ça, c'est les gros camions miniers connectés, les bornes de parking connectées, tout ça, les compteurs d'hydroélectricité tout le monde parle chez Hydro-Québec. Bien, ça existait déjà depuis une dizaine d'années. Puis, il y avait une transition vers l'Internet des objets. Puis, il y avait les premiers Fitbit, les premiers Nest thermostats connectés. Puis, nous, on s'est dit, my God, ils prennent des objets qui valent même pas 100$, puis ils créent un business model autour de tout ça en utilisant les données. Combien d'autres produits pourraient avoir ça? Puis c'est impossible que chaque compagnie qui fabrique un produit va se bâtir une équipe de sciences des données, de mathématiciens, etc. Donc, on va le faire puis on va l'offrir comme une plateforme software.
Tu sais, il y a de plus en plus de savants dans le monde qui disent que la prochaine révolution est dans le data.
Il y a une expression, data is the new oil, right? Donc les données, c'est le nouveau pétrole.
Ouais.
Mais brut, ça sert à rien. Mais une fois raffiné, ben tu fais du plastique, tu fais tout plein d'autres choses. Ben les données, une fois raffinées, tu fais tout plein de choses.
Juste pour que je comprenne, tu es vraiment, toi, tu es dans la plateforme technologique qui accepte l'information et qui la traite.
Oui.
Donc, tu es dans les algorithmes, dans le predictive analysis.
Absolument. Nous, on fait l'ingestion à haute vitesse de données parce que si on imagine, mettons, 1 million de maisons qui génèrent des données de thermostats, de lumière ou des milliers de sondes en agriculture qui mesurent la qualité de sol, combien il y a d'eau, etc. Ça génère des flux de données à vitesse incroyable. Donc, nous, il faut faire premièrement cette ingestion-là, le nettoyer parce que les données, c'est pas propre. Il y a plein de mauvaises données qu'il faut enlever, qu'il faut détecter. Puis après, c'est rouler en temps réel les algorithmes de prédiction, les algorithmes de corrélation, etc.
Tu l'as dit toi-même, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Tu décides de te lancer dans un marché qui n'existe pas. C'est quand même spécial.
Ben, ça existait dans d'autres domaines, parce que de l'analyse de données,
dans
le web, par exemple, Google a fondé Google sur l'analyse de données. mais les données qu'ils utilisent, c'est tes clics de site web. Donc, ils regardent quel site web tu cliques, puis avec ça, ben, ils optimisent ses annonces. Il fait de l'analyse de données.
Mais Frédéric, chez Nubo, qu'est-ce que vous faites avec ces données-là? Vous les vendez? Vous les utilisez pour offrir autre chose?
Nos clients sont tous des fabricants de produits connectés. Donc ça, c'est important comme question. On réutilise pas les données pour nous. On les revend pas au gouvernement. Nous, notre client, il vient, il dit « Moi, je suis fabricant de tracteurs. J'envoie des tracteurs partout. Maintenant, mes tracteurs sont connectés. » Ils capturent tout plein d'informations.
Est-ce qu'ils performent? Donc, ça leur permet d'avoir une espèce de feedback.
Pas juste combien il reste d'essence. Là, on sait où sont les tracteurs, le niveau d'huile dans tous les différents trucs. Okay. Bon, on peut même savoir que la moissonneuse-batteuse a démarré tel run à tel endroit. Donc, nous, ces données-là, ils nous les envoient. On les traite, puis on leur dit, « Hey, tel type de tracteur risque d'avoir une panne parce que telle classe de chauffeur l'utilise de telle façon, etc. »
Vous êtes ceux qui prévoient ce qui pourrait arriver.
Oui, on donne des, qu'on appelle des insights.
Des prédictions.
Des prédictions, des bouts d'intelligence aux fabricants pour qu'ils améliorent son produit. Notre but, c'est que notre fabricant améliore son produit.
Inspiration Inc. Si je veux faire pareil, je fais comment?
Là, évidemment, pour partir une entreprise, ça prend des fonds. Vous êtes 4 fondateurs pour l'entreprise Nubo. Comment vous avez décidé de démarrer ça? Est-ce que vous êtes allé voir des banques? Est-ce que vous avez investi de l'argent personnel?
Oui, bien, nous, on a démarré ce qu'on appelle en bon jargon, on a bootstrappé. Donc, on est parti avec nos propres fonds.
C'est ça le terme, ça?
Oui, oui, oui.
Ah, OK. Lexique.
Bootstrappé. Donc, on a autofinancé le démarrage. Les 3 premières années, on a fonctionné sans aucun investissement externe. Donc, on a fait la bonne vieille méthode. Quand tu as 1$ de profit, ben tu peux le dépenser. Mais quand tu n'en as pas, tu ne peux pas l'en dépenser.
Mais vous faites comment pour vous payer? Comment vous faites pour continuer à vivre au
quotidien? On ne se payait pas au début.
Mais mettons ta maison, ton épicier.
Ben,
je trouve ça courageux, en fait.
Oui, mais je n'ai pas, démarré ça à 21 ans, sorti de l'école. Tu
avais des sous placés.
Moi, j'ai été dans l'industrie pendant 20 ans. Bon, mes 3 cofondateurs et moi étions tous les 3 dans un start-up ensemble avant, qui s'est fait acheter. Donc, on a bien fait, mais pas pour partir sur une plage. C'est ça, on a dit, on saute, on démissionne. Puis, on a gagné un client dans les mois qui ont suivi.
Wow.
Puis, ce client-là, il s'est mis à payer assez pour qu'on embauche du staff. Puis, on est passé de 4, aujourd'hui on est 46 personnes. Là. Fait qu'on est passé de 4 à 40.
Incroyable.
4 à 25 en un an.
Bravo.
Ouais.
Et c'est qui ces clients-là, justement? Ça ressemble à quoi un peu? Est-ce que c'est variable? Est-ce que ça va de l'industriel à la boutique qui veut connecter, je ne sais pas moi, tous les vêtements qu'elle a dans le magasin?
C'est très variable, effectivement. S'il y a une ligne en commun, c'est tous des fabricants de produits.
OK.
OK? Donc, ils fabriquent un produit qui est électrique, là, qui fonctionne avec une batterie ou qui est connecté quelconque. Géographiquement, ils sont surtout aux États-Unis puis en Asie. Un peu au Canada, mais tu sais, au Japon, le Japon fonctionne extrêmement bien pour nous. On a des clients en Australie, à Hong Kong, etc.
Puis vous avez fait comment pour développer le marché international?
Avec notre petite valise puis notre billet d'avion. Puis on a utilisé beaucoup toutes les ambassades canadiennes dans ces pays-là. Souvent, ils organisent des missions, donc ils payent on appelle les trade commissioners. Ils ont un mot français pour les trade commissioners.
Commissaires industriels.
Tu viens de toucher un point intéressant? Les ambassades canadiennes?
Toutes les ambassades canadiennes ont ce qu'on appelle des trade commissioners. C'est des gens qui sont payés par le gouvernement du Canada pour aider une entreprise canadienne à venir s'établir ou gagner des clients dans un pays étranger.
Wow!
Ouais. C'est tes impôts.
Et c'est gratuit.
Donc, c'est gratuit. Si tu es entrepreneur et tu n'utilises pas ces services-là, tu passes à côté de quelque chose de gratuit. Là. Fait que nous, notre équipe de vente, au départ, parce que ça nous a pris 2 ans avant d'embaucher un vendeur. Fait que moi puis un de mes cofondateurs, on prenait notre casquette de vendeur quand on avait le choix, mais notre équipe de démarchage, on se disait, à Hong Kong, il y a plein d'électronique, il y a grosses conférences, des grosses exhibitions.
Le marché est là,
On va prendre contact avec l'ambassade puis les gens qui font le développement d'affaires pour le Canada. Puis eux, ils sont rémunérés sur le succès d'entreprises canadiennes dans le pays où ils sont déployés. Donc, ils ont intérêt
à
faire fonctionner.
Ton parcours personnel est super intéressant. Puis fais-nous donc le chemin.
Moi, je suis un petit gars de Montréal. Donc, j'ai étudié ici en génie électrique à Polytechnique. Puis, je me suis fait embaucher. Donc, moi, mon créneau, c'était les télécommunications. Je me suis fait embaucher par une petite compagnie qui s'appelait Microcell, qui en fait était Fido. Donc, on était même pas 20 gars en 95-96 à déployer un réseau pan-canadien qui, en dedans de 3 ans, est passé de les 20 gars à 2000 personnes parce que Fido, c'était un succès assez fantastique. T'avais tout à faire. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. J'étais tout jeune. Après ça, je me suis retrouvé chez Téléglobe, qui était une autre compagnie de Charles Sirois, qui est d'ailleurs une des personnes qui m'inspire beaucoup. Et autant Microcell que Téléglobe, c'est des compagnies de l'Empire Télésystème Charles Sirois. Chez Téléglobe, ils m'ont embauché pour aller développer les nouveaux sites à l'étranger.
OK.
Donc, je suis parti, j'ai fait pendant un an et demi, j'ai déployé le Japon, l'Autriche, l'Angleterre, la France, Newark, Los Angeles. Je me suis promené beaucoup jusqu'à temps que ma blonde dise
c'est assez.
Time out. Et Nortel commençait à déployer quelque chose qui s'appelle 3G, les fameux cellulaires 3G en Europe. Et ils m'ont déménagé à Paris pour prendre la gestion de produits du produit 3G.
Frédéric, comment on réussit à rester avant-gardiste dans cette technologie-là qui va tellement vite? Comment vous restez allumé? Est-ce que ça, vous allez voir des congrès?
C'est par défaut. Moi, j'aime pas ça travailler sur des vieilles affaires. Donc, tout ce qui est la leading edge ou nouveau, ça m'a toujours intéressé. Mm-hmm. Puis je me suis fait pousser là-dedans par défaut. Quand j'ai choisi ma première job en sortant de l'université, j'ai pas choisi Microcell ou Fido parce que c'était le premier réseau 2G au Canada. C'est juste, ça a donné comme ça. Okay. Mais après, d'expérience en expérience, j'ai déployé le premier réseau 3G en Europe avec Nortel. Trois ans plus tard, ils m'ont déménagé au Texas pour faire les premiers réseaux LTE, 4G. C'est ça, ça a toujours été...
En d'autres mots, ce qui est fascinant, là, c'est que tu n'étais pas un entrepreneur.
Non.
Tu es devenu entrepreneur.
Ouais, ouais. Oui, oui. J'ai toujours aimé le risque. T'sais, déjà, quand tu dis « je prends mes valises puis je déménage », on déchire le bail puis on part. Faut aimer le risque puis l'aventure un petit peu. Mais c'est ça, j'étais pas entrepreneur. Je pense c'est vraiment quand je voulais partir du Texas, revenir à Montréal en 2006, que je me suis fait ramener à Montréal par un start-up qui était celui où j'ai rencontré mes trois cofondateurs. Que là, étant le bras droit du CEO, j'ai vraiment appris puis j'ai eu la piqûre de « wow, tu peux partir de absolument rien puis bâtir quelque chose, créer des jobs, faire vivre des familles. » Moi, c'est ça qui m'a motivé.
Si tu avais une leçon à donner aux gens qui nous écoutent, justement, toi qui as appris un peu sur le tas, ce serait quoi?
Bien s'entourer. Tu peux jamais faire ça tout seul. Jamais. Il y a des gens peut-être qui sont extrêmement intelligents qui vont le faire, mais moi, j'y crois pas. Je pense que quand tu démarres une entreprise, t'as tellement de doutes, t'as tellement de gens qui te disent que ça se peut pas. Si t'es pas bien entouré, tu peux pas dire « on a raison, right? »
Tu peux décourager plus facilement, c'est sûr.
Puis aussi, c'est d'aller chercher les skill sets, les talents que toi t'as pas. Fait que nous, on était quatre, super complémentaires tous les quatre. Donc, le jour un, c'était clair que moi, là, qu'est-ce que j'allais faire dans mon quotidien, puis lui, ce qu'il allait faire, c'était vraiment hyper clair. Même aujourd'hui, à 45-46 personnes, quand on embauche, c'est la même chose. On n'embauche pas quelqu'un qui va être facile à manager parce qu'il est moins bon. On essaie tout le temps d'embaucher quelqu'un qui est plus intelligent, plus meilleur que nous, qui va me challenger, qui est capable de faire ma job. S'il est capable de faire ma job, ça veut dire que moi, je suis obligé d'aller en faire un autre. Right? Donc, tu as deux philosophies d'embauche. C'est j'embauche des gens que je peux gérer dans mon équipe ou des gens qui vont peuvent vouloir prendre ma job à un moment donné. Puis ça te pousse plus haut. Puis chez Nortel, ça a fait que j'ai fait trois pays tout le temps à la fin avec des organisations de quasiment 200 personnes.
Moi, j'ai une question par rapport... Il y a quelque chose qui me chicote. Pourquoi Montréal? Tu sais, la Silicon Valley. Tu sais, tu revenais, tu aurais pu décider d'être basé à San Francisco direct.
Bien, il y a deux...
Il y a moins de cash.
Il y a deux côtés à ça. Montréal, évidemment, il y a le côté personnel. Je suis de Montréal. Ma femme est de Montréal. Ma fille est née au Texas. Donc, elle est américaine, mais mes grands-parents, les cousins, les cousines... Je veux dire, donc, il y avait un côté attachement à la ville, à la famille qui était... On a été 6 ans à l'étranger, donc de revenir...
Les origines,
Donc ça, c'est sûr que c'est important. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure place pour partir une compagnie. En 2017, si tu veux partir une compagnie, là, ou mettons en 2012, il y a plus de créativité ici. Il y a du talent, ça n'a aucun bon sens avec les universités qu'on a. Il y a l'écosystème même de financement. Mm-hmm. Ça développe énormément. Il n'est pas encore Silicon Valley. Mais encore plus que ça, les gens ici, tes employés sont loyaux. Ils croient à ta mission, pas juste au chèque de paie. Silicon Valley, t'embauches un développeur, un mathématicien, un ingénieur, puis ils croient à ta mission. Trois mois plus tard, il y a 10 000 $ de plus chez le voisin. Il part, là. C'est très, 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 très difficile.
En analysant ton parcours, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu en avais la possibilité?
Ça, c'est une super difficile question. Plein de choses. Tout.
Ouais, tout?
On a été longtemps à s'attaquer à un marché qui n'existait pas encore. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'on aurait changé notre approche un petit peu au début. Même aujourd'hui, on trouve qu'on est tôt dans notre marché. Je pense qu'on serait allé chercher des investisseurs plus tôt si on avait vu l'impact que ça a quand on a eu des investisseurs en 2015. C'est cash is king. Donc, ça prend la bonne balance entre les deux. Nous, on était de la philosophie conservatrice. On dépense ce qu'on a, puis on bootstrap.
Oui.
Alors qu'à Silicon Valley, c'est tout l'inverse. On va chercher des dizaines de millions, puis on dépense tout ce qu'on a. Puis on n'aimait pas cette philosophie-là. Mais je pense que la bonne balance entre les deux, ça te permet de voir une opportunité, d'investir plus vite dedans, puis c'est ça.
Donc, vous auriez été moins conservateur, un peu plus...
Oui, on aurait probablement...
Dépensier.
Et dépensier. Comme là, on commence à embaucher des vendeurs en dehors du Canada. T'sais, en Asie, aux États-Unis, etc.
Mais
on aurait pu faire ça avant.
Ouais.
Mais c'est cher de faire ça.
Je comprends.
Donc, tant que tu n'as pas d'investisseur, ben, tu dis, ouais, est-ce que je vais embaucher un vendeur à 250 000 à Tokyo?
Tu sais, quand tu viens à un moment donné au point de choisir tes investisseurs, comment tu les choisis?
Nous, dans notre cas, on avait plein d'offres. Autant américaines de Silicon Valley que québécoises, canadiennes, etc. Si tu compares juste le chèque, ben, tu ne prendras jamais la bonne décision. Nous, on avait des offres beaucoup plus élevées, même trois fois plus élevées en termes de dollars que notre 6 millions qu'on a levé. Mais on a quand même choisi ça parce que au bout de la ligne, c'est les gens qui s'assoient autour de la table à ton conseil d'administration, tes investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Est-ce qu'ils ont exactement le même background que toi puis les mêmes idées? Ben, ou est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Il faut qu'ils puissent t'amener quelque chose qui va transformer ta business, pas juste le montant du chèque. Fait que nous, on est allé chercher un investisseur qui était un fonds de capital de risque qui était Londres, Montréal et New York. Donc, il nous amenait le côté international qu'on cherchait avec une grosse expertise en software. Puis, on est allé chercher un fonds de Toronto qui était spécialisé dans l'Internet des objets industriels qui est le créneau que nous, on attaque.
Développé, mais oui. Frédéric Bastien, cofondateur de Nubo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Ça a été extrêmement intéressant.
Ouais, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir. J'espère que ça va inspirer d'autres.
Inspiration Inc. Les enseignements.
Quelle belle rencontre ça a été, Frédéric Bastien. On sent vraiment que c'est un gars qui est passionné par ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as retenu de cet entretien?
La première chose que j'ai retenue, c'est qu'il a dit que lui, il a gradué de l'université. Puis il est allé travailler avant.
Ouais.
Il est allé voir du pays. Il a eu une carrière extraordinaire, internationale. Il a vécu 6 ans à l'étranger avec sa petite famille et sa femme. Je pense que ça forme quelqu'un.
Mm-hmm.
La deuxième chose, savoir s'entourer. Combien d'entrepreneurs qui nous ont dit
ils
ça?
Ils ont tous dit ouais.
Savoir s'entourer des gens. Et la dernière qui m'a frappé vraiment, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est quand tu engages quelqu'un, engage quelqu'un qui veut tout de suite te remplacer ou qui est prêt à prendre ta job.
Ouais. C'était surprenant d'entendre ça.
Parce que tout de suite, il nous l'a dit, regarde, moi, j'engage des gens qui veulent ma job, ce qui veut dire qu'il faut que je réinvente ma job pour devenir meilleur.
Ouais.
Alors, t'imagines, ça veut dire que l'organisation, elle pousse d'en bas, là. C'est le bas de l'organisation qui te pousse vers le haut. Parce que ce qui est tough, des fois, comme entrepreneur, c'est de tirer ta gang. Là, tu n'as pas à l'attirer. Il te pousse.
Il te pousse, oui.
Ah, la vitesse dans laquelle les choses doivent aller dans cette business-là, ça doit aller vite en tabarouette à cause de ça.
Philippe Richard Bertin, ça a été encore une fois un plaisir de passer cette émission-là avec toi.
Le plaisir était pour moi.
Merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez suivre toutes nos capsules en vous rendant sur le c'est quoi.com.
D'autres épisodes avec des passionnés, très bientôt sur c'est quoi.com. Inspiration Inc. Une présentation de Banque Nationale. Réalisons vos idées. Balado 96.9.